Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoundi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Forum de la Presse. Aujourd'hui, nous allons débattre de trois sujets. La situation humanitaire à Gossi, la lutte contre le terrorisme, la déclaration d'Ibeka, l'interdiction de circulation des motos et pick-up et les dérives sur les réseaux sociaux. Nos journalistes sur ce plateau, Amadou Salif Guindo du journal Enquêteur, Bruno Sekbedji de Mali Horizon. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Selon le troisième adjoint au maire de Gossi, Issa Aguissana, à la date du 10 février dernier, près de 11 800 réfugiés déplacés ont été enregistrés à Gossi. L'afflux de ces personnes dans la commune de cette localité a dégradé la situation humanitaire. Les stocks alimentaires sont épuisés et un manque d'eau règne sur place. Alors, Monsieur Sekbedji, quelle analyse faites-vous de cette situation?
Cette situation, ce n'est que un paroxysme de la situation précaire qui règne dans la zone, dans le nord jusqu'au centre. On sait que avec l'invasion des djihadistes ou des terroristes, il y a eu même par endroits des interdictions aux gens d'aller au champ. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une insécurité alimentaire, des récoltes qui seront mauvaises. Et donc, avec cette peur-là, on s'attend à ce que les gens aient des difficultés pour se nourrir par ces temps. Donc, les zones où, je crois, par endroits où il y aurait des possibilités de jardinage, certains vont affluer pour se partager les miettes qu'il y a. Donc, c'est assez alarmant, mais je crois que c'est le tableau assez noir qui est peint dans cette zone-là, dans le nord, dans le centre et à divers endroits du pays. On pourrait revenir là-dessus.
D'accord. Et vous, M. Guindo?
C'est une situation qui est explosive. Et comme l'a dit Bruno, c'est la conséquence, sinon ce sont les conséquences de l'intervention, sinon les interventions des forces armées maliennes et burkinabées, sinon du G5 Sahel dans cette partie qui est frontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Et nous savons que les camps de réfugiés maliens situés en territoire burkinabé se situent tout à la lisière de la frontière. Et il suffit que on commence à traquer ceux qu'on appelle les djihadistes pour que on commence à faire ce que nous craignons ici, l'amalgame. Alors là, les populations et peut-être les paisibles populations qui sont réfugiées vont être considérées à tort ou à raison comme des complices, sinon des collabos. Et pour peut-être échapper à cela, ceux qui pensent qu'ils ne se reprochent rien rentrent directement chez eux, alors qu'ils ne sont pas officiellement prêts à revenir à la maison.
D'accord. Alors, M. Sekbedji, malgré la mobilisation des organisations humanitaires, la situation ne cesse de se dégrader. Qu'est-ce qui explique cela?
La demande est forte. La demande est très forte. Et n'oublions pas que la situation n'est pas aussi rose que ça dans les pays voisins. Non seulement nous commentons, nous analysons ce qui se passe au Mali, mais au Burkina, au Niger, c'est la même précarité. Donc, avec l'instinct de survie, les populations se dirigent vers les zones où ils peuvent trouver des retenues d'eau, quelques rares retenues d'eau parce que je crois que dans la zone de Gossi, c'est souvent des populations d'éleveurs en grande majorité. Donc, histoire de converger avec leurs animaux vers les points d'eau. Donc, il y a une densité de population qui va se créer autour des points où la possibilité des cultures, enfin, les cultures n'ont pas un grand rendement. Donc, les organisations de défense, les organisations d'aide humanitaire, d'aide alimentaire vont se mobiliser, mais comme il y a une convergence de population vers la zone, les distributions, les stocks alimentaires peuvent s'épuiser facilement. Je crois que c'est à ce scénario-là qu'on assiste. Il faut plus de mobilisation, non seulement des ONG d'aide alimentaire, mais aussi des autorités du gouvernement pour appuyer les autorités décentralisées, les maires et autres là, parce que vous avez, votre mot introductif l'a dit, c'est un cri d'alarme d'un adjoint au maire. Ça veut dire qu'il lance de véritables SOS pour que le gouvernement aussi, grâce au commissariat à la sécurité alimentaire, grâce au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Action humanitaire, pour que tout le monde puisse voler au secours de ces populations qui sont véritablement pris entre plusieurs feux. C'est comme ça que moi je veux dire. La nature qui leur est hostile et l'insécurité qui est là, et puis la précarité du monde économique aujourd'hui, le chômage et autres là, vraiment, il faudrait qu'on vole au secours de ces populations. C'est comme ça que je trouve la chose.
D'accord. Monsieur Guindo, êtes-vous du même avis que Monsieur Sekbeji par rapport à...
Je dirais ça, mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est quelque chose de supra-étatique, puisque ça concerne non seulement des réfugiés maliens de retour, mais aussi il y a des populations d'origine burkinabé qui sont quand même qui sont aujourd'hui en situation de réfugiés, eux qui ne l'étaient pas avant. Donc je pense que le G5 Sahel doit jouer aujourd'hui un rôle d'humanitaire. Si ce n'est pas prévu, je ne peux pas le dire. Et je pense aussi que la MINUSMA, qui a un volet humanitaire très important, doit s'impliquer pour que cette situation soit le plus tôt endiguée. Bon, endiguée, c'est peut-être assez fort, puisque la population déjà sur place se cherche. Et Gossi, il faut le rappeler, c'est une commune rurale officiellement, mais qui est quand même aujourd'hui très peuplée, sinon surpeuplée. Et l'arrivée massive de ces personnes qui n'étaient pas du tout prévues rend la situation plus compliquée. Donc cela suppose que d'abord il faut gérer les ressources en eau, il faut aussi se trouver, disons, une sorte d'entente pour que les animaux et leurs conducteurs n'aient pas de problème avec les populations autochtones ou sinon celles déjà établies sur place. Il faut donc trouver aussi de l'espace où faire et paître les animaux. Donc tout ça, c'est des situations à gérer avec les autorités des deux pays frontaliers, mais aussi, on va dire, dans une moindre mesure, on peut impliquer aussi le Niger, qui n'est pas très loin de là.
D'accord, mais vous dites qu'il y a des familles burkinabées qui sont là. Pourquoi ne pas retourner au Burkina au lieu de venir ici?
Il s'agit le plus souvent, quand vous voyez les populations se déplacer pour aller dans un autre pays qui n'est pas le leur, le plus souvent, il s'agit de faire, disons, d'échapper à ce que j'ai appelé l'amalgame. Au Burkina, c'est parce qu'il y a très peu de populations d'origine touareg comme au Mali ou au Niger. Et quand il y a des situations comme ça, les populations ne connaissent pas, elles en tout cas, la frontière que nous avons qui est abstraite et qui est d'idéologie coloniale. Donc ces populations se déplacent pour aller d'un point à un autre sans se préoccuper de ce qu'ils sortent. Disons, elles sortent d'un pays pour aller dans un autre pays. Donc là, je dirais que aller au Burkina dans une partie qui n'est pas habitée par les populations de même type que elles, c'est se retrouver chez des étrangers. Donc le mieux, c'est peut-être aller et avec les personnes avec qui on se, disons, auxquelles on est proche, desquelles on est proche, excusez-moi.
D'accord. Alors, Monsieur Sekbeji, vous avez parlé un peu des solutions, mais selon vous, concrètement, comment faire face à cette situation?
Bon, faire face à cette situation, je crois que ça se situe globalement dans le cadre du processus de sécurisation, notamment ce que nous appelons globalement la mise en œuvre de l'accord. Et récemment, le Premier ministre Somelo Boubaï Maïga parlait d'un plan de sécurisation intégré de la zone du centre jusque vers Gao, donc dans la zone de Gossi. Je crois que dans ce plan de sécurisation, il y a un volet déploiement des forces, renforcement de la présence des forces de l'ordre, comme il avait annoncé, mais aussi il y a le volet social, c'est-à-dire les apports en banque de céréales complémentaires, parce que la menace est là, la menace de famine est là, elle est réelle. Donc renforcer les banques de céréales, mais aussi les prises en charge des jeunes en termes de d'unités rizicoles, des travaux de jardinage et autres là, pour que les jeunes puissent se prendre en charge. Sinon, c'est un foyer assez dense. De j'allais caricaturer en disant de fabrication de djihadistes, parce que des gens désœuvrés qui sont facilement manipulés, c'est on a comme l'impression qu'on est en train de tourner en rond. En même temps qu'on veut résoudre le problème, il y a la nature qui semble aussi hostile. Donc résoudre le problème, c'est accélérer la mise en œuvre de l'accord, accélérer le plan de sécurisation intégré de la zone avec des aides de différents partenaires, multiplier ces partenariats et le gouvernement aussi qui doit être présent. Salif l'a dit, l'aménagement, j'allais ajouter le ICR, l'office de migration. Je terminerai par le fait que, vous savez, les frontières sont assez poreuses, hein, assez poreuses, au point que, par rapport à la question tout de suite là, les populations de part et d'autre de la frontière, quelquefois, elles s'en fichent éperdument de l'histoire de nationalité. Hein. Les gens du Burkina qui ne sont pas très loin ne se sentent pas qu'ils sont en train de changer de frontière, qu'ils sont en train de venir au Mali et vice-versa. Parce que c'est plus ou moins de part et d'autre, c'est plus ou moins les mêmes noms, les mêmes réalités culturelles, etc. Donc là où il y a un minimum vital en termes de points d'eau, en termes de jardins où on peut subsister, on peut vivoter un tout petit peu, les gens affluent vers là. En attendant que la saison change, qu'il y ait une petite pluie ou bien que les animaux se soient déjà abreuvés suffisamment dans les étangs et que les eaux se soient asséchées dans cette zone, ils peuvent bouger. C'est cette réalité. Il faut que les organismes publics, l'État, ses partenaires puissent multiplier des actions vigoureuses pour venir au secours, pour aller au secours de ces populations.
Et surtout rappeler que les populations les plus concernées sont des populations nomades, donc par définition des gens qui n'ont pas de lieu fixe.
C'est ça.
D'accord. Alors, nous allons parler à présent de l'interdiction de circulation des moutons et pick-up dans certaines localités, Ségou, Mopti et Tombouctou, qui suscitent de plus en plus de réactions. C'est le cas dans le sac de Niono. Selon certains élus locaux, cette mesure a de nombreuses conséquences sur le mode de vie de la population. Docteur Mamadou Otienekone, conseiller municipal à la mairie de Niono.
Écoutons. Franchement, c'est provoque un seul problème à Niono. C'est-à-dire que la population n'a autre moyen de déplacement que les motos, et la plupart de ces populations vivent très loin de ces lieux de travail, et réellement il faudra comprendre que cette population vit des riziculture. Donc qui dit riziculture dit réellement des moyens de déplacement. Donc franchement, si l'État ne revoit pas cette mesure, on ne peut pas continuer comme ça. Cette décision, elle est impopulaire, et la population de Niono ne peut pas continuer à vivre vraiment de cette façon.
Alors, Monsieur Guindo, vous venez d'entendre tout de suite les propos du conseiller municipal à la mairie de Niono. Quelle est votre observation face à ce dilemme?
Je vais d'abord réagir à la situation précise du cas précis de Niono que je connais un tout petit peu. Niono, je me souviens par exemple d'y avoir été il y a bientôt 6 mois. Et c'était la même situation. Et l'un des députés de la localité avait souhaiter que l'État revoie un peu la mesure pour que au moins on puisse permettre aux populations de circuler de 8h à 18h ou sinon de 6h à 18h, puisque oui, c'est vrai, elles sont dépendantes des motos et des véhicules qui quand même sont très importantes dans le transport ou dans la commercialisation des produits qui sont cultivés ou produits, disons, sur place. De façon globale, je suis de Mopti, moi je suis plutôt aujourd'hui très satisfait des résultats que cette mesure a produit. Il faut être de la région de Mopti précisément pour comprendre que l'interdiction aujourd'hui a permis aux populations, c'est vrai que ça empêche quelque part la mobilité, mais quand même les djihadistes ou sinon les personnes qui sont considérées comme telles n'arrivent pas à opérer comme elles pouvaient le faire avant, quoi. Donc il faut comprendre ça aussi. À des situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. On ne peut pas franchement réussir des réformes, faire disons, reçu des résultats importants sans faire de sacrifices et de sacrifier. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans ça. Quand on veut que l'État soit fort, quand on veut que l'État, l'autorité de l'État soit là, il faut que certaines choses soient acceptées par les populations. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Dire de l'État qu'il faut qu'il soit fort et dire on n'est pas d'accord avec ça. Ça, je suis totalement contre, personnellement.
D'accord. Alors, M. Segbeji, partagez-vous le même avis que M. Guinot?
Pas tout à fait. D'abord, la sécurité, c'est une prérogative régalienne de l'État. C'est l'État qui doit assurer la sécurité. Il se fait que nous sommes dans un cas de figure où on présume que la plupart des djihadistes, des terroristes utilisent les motos, les pick-up. Et donc, ça a conduit l'État à prendre cette mesure. Elle est impopulaire. On n'a pas besoin de le dire. Elle est impopulaire. D'abord, l'insécurité a fait que la zone, depuis Niono vers Mopti, heureusement qu'il est de Mopti, cette zone-là est exsangue économiquement. Les touristes, c'était, je ne vous l'apprends pas, c'est vraiment la matière où les jeunes arrivaient à avoir de subsides, de revenus. Le tourisme est mort dans ces zones-là. Oui. Il suffit de voir la chancellerie française a peint ces zones en rouge sur les cartes. Donc, d'abord, il y a un secteur d'activité qui est mort comme ça. Le minimum maintenant en termes de déplacement, c'est des zones assez vastes. Le Mali est assez vaste. Donc, d'un point à un autre, c'est assez vaste. Le seul moyen de déplacement que les gens arrivent à avoir, c'est la moto au bas mot. On ne peut pas rallier ces coins assez distants à vélo, à moto. Donc, que l'État arrive à prendre cette mesure, on peut comprendre, on peut admettre que c'est malgré lui. Mais alors, il faudrait prendre des mesures compensatoires, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles puissent être. Sinon, c'est tuer les zones économiques. Le maire l'a dit, d'autres voix se sont élevées pour dire que comment on peut aller au champ, comment on peut aller dans ces zones-là sans moyen de déplacement. Quel moyen de déplacement, de substitution l'État a prévu? C'est là la question. Moi, je voudrais. Je ne dis pas que ce ne sont pas des mesures qui sont bonnes pour freiner l'attaque des djihadistes, mais reconnaissons qu'il y a des morts par mine. Et ces mines-là ont été placées pendant des mois déjà. Ce n'est pas par les moyens, pas par les motos ni par les pick-up. Donc, c'est un mal peut-être nécessaire, mais il faudrait trouver des mesures compensatoires pour atténuer l'incidence négative que cela génère sur la population. Sinon, ça tue les gens qui sont obligés d'être sur place, qui ne peuvent pas se déplacer, parce que c'est véritablement par ces moyens-là qu'ils se déplacent.
Oui. Excusez-moi. En fait, c'est vrai que ce sont des mesures, vous l'avez dit, impopulaires. Et quand on veut être un État fort, il faut forcément des mesures impopulaires. Sinon,
pas nécessairement.
Aujourd'hui, le Mali, il ne faut pas des mesures populistes quand même, quoi, pour sortir le pays de l'impasse. Ça, je le dis franchement, si on doit plaire à tout le monde, c'est pas possible. Mais quand même, je suis d'accord avec vous. Par exemple, dans le cas du cercle de Kourou, le préfet a sorti une décision, on va dire bis, pour dire voilà, vous pouvez circuler de 6h à 18h, mais au-delà, si on vous trouve à moto ou en pick-up, on vous considère comme des terroristes ou des collabos. Ça, c'est quelque chose que l'on peut, de façon décentralisée, gérer à l'intérieur de chaque commune ou à l'intérieur de chaque préfecture. Mais il y a des foyers plus violents quand même. Le cas, par exemple, de Niono, qui est le plus souvent attaqué. On sait que Diabali, même il y a quelques jours, on a dit que des hommes en armes sont allés faire des choses qu'on a assimilées à ce qu'on peut dire de la bavure militaire. Ouais, donc c'est important de prendre de telles mesures, je pense.
Je ne veux pas polémiquer, mais pour moi, les mesures impopulaires en termes des mesures qui touchent aux libertés fondamentales, aux capacités de productivité. Les populations doivent bouger pour leurs besoins. Donc si on prend des mesures pour leur sécurité, c'est vrai, et qu'on ne trouve pas d'autres dispositions qui atténuent l'effet de ces mesures, j'avoue que c'est difficile pour ces gens-là qui étaient déjà confrontés à d'énormes difficultés en termes d'économie. Moi, j'ai quelques amis à Niono. Quand vous les contactez au téléphone, Vraiment, c'est des gens qui se plaignent. Et ils ne l'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé cette situation. Par malheur, les terroristes ont frappé à plusieurs reprises dans cette zone. Et que l'État soit obligé d'arriver à ces mesures draconiennes. Chez les juristes, on dit le principe, c'est la liberté. C'est l'exception qui est ces restrictions-là. Ces restrictions doivent viser des mesures compensatoires pour atténuer. C'est tout ce que
mesures compensatoires existent, même si il ne s'agit pas de compensation entre guillemets financière ou voilà. Mais quand même, il existe des propositions. Ces propositions, ce sont quoi? Et, par exemple, dans le cas précis de Mopti que je maîtrise le mieux, on a proposé que chaque personne qui souhaite se déplacer doit aller s'informer, par exemple, la préfecture pour dire si vous voulez bouger à moto, vous prenez un document administratif qui vous autorise à bouger. Quand, par exemple, on vous arrête en pleine en circulation, vous montrez le document qui vous autorise à circuler. Ça veut dire que vous êtes hors de cause. Et c'est la même chose qu'on peut faire un peu partout. Et ça veut dire quoi aussi? On a permis, par exemple, on organise des patrouilles, des escortes pour les personnes qui sont organisées. Nous, on peut bien et bien faire ça. Quand on est dans des situations comme ça, il faut songer à s'organiser pour ne plus se déplacer seul. Parce qu'on sait que quand on est seul, on est même plus vulnérable que quand on est avec d'autres personnes.
Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un risque avec ça, avoir un document? Parce qu'en général, ils ne demandent pas d'abord les documents avant de tirer.
Oui, mais avant
vu qu'il y a déjà une interdiction
vous venez, mais quand même on sait
le risque d'amalgame est encore plus grand.
Mais quand même on sait qui est venu récupérer quoi. Même si vous êtes un terroriste, dès que vous demandez quelque part, vous êtes soumis à une autorité. C'est clair, vous reconnaissez l'existence ou sinon et vous reconnaissez cette autorité, sinon vous lui reconnaissez une certaine légitimité. Et ça permet au moins de savoir qui se déplace. Mais les autres qui se déplacent sont automatiquement considérés comme des terroristes. Celui qui veut faire, disons, quand l'armée en patrouille arrête des personnes, ce ne sont pas des terroristes. Les terroristes ne se font pas arrêter. C'est clair, hein? Les terroristes ne sont faux. Ils se défendent d'abord avant d'être peut-être arrêtés. Sinon, ils ne se font pas arrêter comme ça, ils se défendent. Alors que celui qui se déplace avec un document administratif, il va avoir le temps de dire, bon, voici, j'ai un document qui me permet de me déplacer librement dans ce territoire-ci. C'est ça, c'est ce que je pense.
Et vous, M. Segbedji, pensez-vous la même chose ou...
Bon, moi, je suis très réservé par rapport à ces mesures, quoi. En tout cas, leur efficacité, je n'en vois pas trop. En tout cas, en termes de prix payé, de restrictions sur leur liberté, sur leur capacité de faire des activités compensées, quand on le met dans la balance, je suis plutôt sceptique par rapport à l'efficacité ou bien l'effet positif qu'on en tirera. Le terroriste, il vient peut-être à moto, en un temps record, il se fait en kamikaze, il se fait exploser ou bien il s'en va. Maintenant, interdire les motos pour des zones comme ça, pour des populations, des jeunes qui sont obligés de se morfondre dans la misère, je tique quoi, ça m'affecte un peu.
Il est important, moi je pense, de rappeler que les motos, c'est les mouvements des motos dans ces zones. C'est plutôt récent, quoi. Vous voyez, les motos, c'est avec l'avènement des motos chinoises. C'est très récent, le plus souvent.
À Nyono,
comme dans les localités de Mopti, c'est vraiment récent. Il s'agit des motos que l'on peut facilement identifier. Il ne s'agit pas peut-être de toutes les motos. Il y a des, par exemple, on sait qui détient une DT, une moto DT, qui généralement est utilisée par des agents des ONG, on sait ça. Mais les terroristes utilisent généralement des motos de type Sanelli. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très facile à comprendre. Donc dans la zone de Mopti précisément, les motos, c'est récent ça. Donc on peut bel et bien se déplacer sans ces motos. On a été clair, on a dit les pick-up et les motos. Mais vous pouvez utiliser d'autres moyens de déplacement. Les charrettes, même si c'est là, ils sont là. Il existe des moyens de transport en commun aussi.
Mais il se fait que ces populations se plaignent justement.
Voilà,
qu'ils paient un prix assez lourd par cette interdiction.
Je n'accuse pas ceux qui se plaignent d'être des collaborateurs du terrorisme. Mais je pense que. Et c'est des gens qui veulent la solution facile. On ne peut pas être dans cette insécurité et dire on n'est pas d'accord avec une telle mesure.
D'accord.
C'est ignorer la gravité de la situation.
Monsieur Guindo, vous n'êtes pas à leur place, c'est pourquoi
je suis à leur place parce que d'ailleurs j'y vais dans une semaine. C'est chez moi et j'y ai des parents.
Chez certains, la moto, c'est leur vie. C'est leur vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le leur retirer.
Il faut adapter, s'adapter maintenant à la situation.
Justement, quelle est cette piste-là qu'on leur propose en compensation de cette privation-là? C'est ce que moi je dis.
Non,
ça peut se faire.
Il faut trouver un moyen de déplacement, d'adaptation à la situation actuelle.
Qui le trouve?
Il s'agit des populations concernées.
Non, c'est le gouverneur qui a émis cette
interdiction. D'accord, M. Sekouli. Alors, par rapport à la lutte contre le terrorisme, quelle a été la situation cette semaine? Selon vous,
la lutte contre le terrorisme.
Oui.
Non, on nous a annoncé les efforts, ou bien j'allais dire les prises de Barkhane cette semaine ou hier encore. Barkhane a fait un bon bilan par rapport à l'arrestation des djihadistes dans la zone. Je crois qu'il y a des efforts par rapport à la mobilisation autour du G5 Sahel aussi. Il y a des efforts qui se font. Justement, par rapport à tous ces efforts, par rapport à ces progrès, je me dis, cette interdiction, cette atteinte aux libertés, les libertés, m'excusez, c'est personnel, oui. Mais tu es un adepte des libertés, quoi. C'est ça l'essence même de l'être humain. On est en démocratie. C'est vrai, on va dire que l'état d'urgence qui permet de limiter, mais il ne faut pas que cette limitation prive les gens dans leur capacité à produire, à aller à venir. Ça c'est un loisir que vous ne pouvez pas imaginer. Demandez seulement à un prisonnier, quand on le prive de sa liberté, c'est un peu ça. C'est la pire chose qu'on puisse concevoir à quelqu'un. Sa moto, les jeunes dans le Niono, je ne sais pas, vous dites que c'est récent, moi je ne crois pas. Enfin, ça dépend de ce que vous appelez récent. Les jeunes ne font que bouger à moto. Pour leurs activités, pour leurs affaires. Et c'est avec ça qu'ils sont. Je n'ai pas fui votre débat. Hein.
Oui.
Je rejaillis sur ça. Donc l'effort par rapport au terrorisme, je crois qu'il y a des avancées avec la mobilisation du G5 Sahel, avec les prises heureuses de Barkhane. Mais il faudrait, comme on le dit toujours, une meilleure collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité pour que les gens puissent se donner des informations, des gestes suspects, des éléments suspects, pour que, enfin, avec cette mobilisation, qu'on puisse pacifier davantage le pays, du moins cette zone-là, le centre et le nord. Nous sommes dans l'avant-veille des élections pour que ce processus-là puisse avoir plus de succès.
D'accord. Et M. Guindo, qu'avez-vous ajouté par rapport à ça?
C'est quand même, comme il l'a dit, il y a eu des prises et elles sont importantes. Moi, j'ai un problème. Je n'ai rien contre Barkhane ni contre la MINUSMA, mais je souhaiterais quand même que dans leurs actions, il serait mieux d'associer les armées locales, quoi. Je voudrais parler du Mali, du Niger et du Burkina, parce que quand on fait la guerre à la place d'une armée nationale, il va être difficile pour cette armée nationale de se revendiquer légitime sur le territoire où elle n'est pas intervenue physiquement. Et je ne vois pas comment l'armée malienne un jour va se glorifier de dire nous avons aidé à libérer Kidal, puisqu'elle n'est pas du tout là-bas, puisqu'elle n'accompagne même pas Barkhane dans ses déplacements, puisque et elle n'est pas aux côtés, par exemple, de l'armée burkinabé, par exemple, dans la zone où Ansarul intervient, dans la zone de Gossi, par exemple. Il serait bien que ce soit des actions coordonnées avec les pays concernés pour que les États aient de la légitimité auprès des populations, quoi. Voilà.
D'accord. Et vous, M. Segbedji, êtes-vous d'accord avec M. Segbedji?
Bon, ce débat-là, c'est tout un autre débat. Avec le dispositif du G5 Sahel, c'est les pays qu'il a cités, le Mali, là, ses forces. Le Niger, le Burkina, le Tchad et quel autre pays? Les cinq pays et la Mauritanie mènent des opérations. Enfin, où il y a eu déjà deux opérations qui ont été déjà lancées. Mm-hmm. Le front mauritanien aussi va se mobiliser bientôt. Donc je crois qu'il y a une participation de nos forces. de force locale.
Oui, il parle de collaboration avec les arrestations de Barkhane, mais notamment l'inclusion de ces forces-là.
Ou par exemple celle de d'hier dans la partie, disons, vers Menaka, où on dit que c'était le MSA et les Gatia qui étaient là-bas avec Barkhane. Moi, j'aurais aimé y voir au moins des éléments de l'armée malienne là-bas, quoi, ne serait-ce que, voilà.
Bon, je ne m'y connais pas en matière militaire, mais je crois que Barkhane a spécifiquement un mandat de lutte contre le terrorisme.
C'est clair.
Donc, ce qui peut-être n'est pas aisé dans le dispositif militaire de nos pays. Parce que on a vu, chaque fois qu'il y a eu, dans un passé récent, il y a eu des attaques de terroristes, on a vu comment ça s'est soldé. Nos pays, nos armées ont eu d'énormes difficultés. Ne nous voilons pas la face. Donc si Barkhane, avec son dispositif aérien, parce que notre armée, l'armée malienne, vient d'avoir 5 aéronefs et on dit que ce n'est pas encore la grande force de frappe avec ces 5 aéronefs en termes d'équipement, en termes d'entretien. Peut-être que nos éléments, l'armée de l'air n'a pas encore atteint ce niveau pour pouvoir collaborer dans la coordination des actions avec Barkhane. Mais Barkhane, c'est des éléments entraînés suffisamment qui ont cette expertise, qui ont démontré, qui ont fait leur preuve ailleurs. C'est peut-être pour ça, selon ma compréhension, c'est peut-être pour ça qu'ils agissent ou bien elles agissent en solo, en attendant que l'armée malienne ou bien les autres armées aient monté encore en puissance pour faire des actions communes, quoi.
D'accord. Alors, M. Guindo, le PM a déclaré à Mopti « Nous sommes prêts à négocier avec tout le monde ». Et quelques jours après, le président Ibeka annonce qu'on ne négociera pas avec les terroristes. Qu'en pensez-vous?
Je suis totalement inquiet. Moi, je suis très inquiet, quoi, franchement. Je pensais que l'arrivée du PM était symbole de compréhension entre les deux hommes. Et déjà, il y a cette discorde, on va dire comme ça. On dirait qu'ils ne se concertent pas avant de parler. Et c'est très grave, ça. Je ne peux pas comprendre que le président de la République puisse dire le contraire de ce que le Premier ministre a dit. Même si je ne pense pas au fond de moi qu'il s'agisse de dire le contraire de ce que le PM a dit. Le PM a dit, on va négocier avec tout le monde. Il s'agit de tous ceux qui sont prêts à le faire. Et quand le président dit, nous ne négocierons pas avec le terroriste, peut-être qu'il exclut du lot Yad Agali et Amadou Koufa et ses hommes. Parce que s'il les considère comme des terroristes, je suis sûr et certain que il va se raviser, parce que nous sommes aujourd'hui obligés de négocier avec ces personnes ou aller les combattre. Et nous ne le faisons pas aujourd'hui. Puisque nous n'avons pas le pouvoir de les combattre, pourquoi ne pas aller négocier avec eux? Il ne faut pas... Quand on est des petits pays, entre guillemets, petits en termes de puissance militaire, il ne faut pas chaque fois faire de grandes déclarations. Il ne s'agit pas de faire de grandes déclarations pour plaire aux gens. Les déclarations et les comportements populistes, là, nous avons dépassé ça. Moi, je pense que l'État malien doit aujourd'hui comprendre qu'il est, entre guillemets, assez petit pour dire certaines choses. Et ce que le Premier ministre a dit, nous allons nous assumer, on va faire la guerre à ceux qui ne sont pas prêts, nous allons négocier avec ceux qui sont prêts. Moi, je suis avec cette déclaration. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour le Mali.
D'accord. Et vous, M. Segbeji?
Le président Ibeka est constant. Hein. Il est constant. J'observe que depuis longtemps, il a fermé la porte à dialoguer avec des terroristes, quels qu'ils soient. Terroristes ou djihadistes, le terme est tellement galvaudé, terroristes. Donc, en répondant au journal, j'observe que c'est au journal Le Monde et en France, cette interview-là. Je le comprends. Je peux comprendre que le contexte et cette hostilité de la communauté internationale, de la France, à dialoguer avec les terroristes, c'est ressassé à suffisance au point que je ne peux pas comprendre que le président de la République tienne compte de l'engagement annoncé par son premier ministre pour dire « oui, on peut envisager une discussion avec Yad Agali ». Donc je comprends qu'il soit constant dans ce sens-là. Des voix se sont élevées depuis l'opposition Tchéblé, Dramé et autres, là, qu'il faut dialoguer avec les terroristes maliens. Le président l'a toujours battu en brèche, cet argumentaire-là. Donc, ce que je peux dire, c'est visiblement au Premier ministre de devoir réajuster sa position par rapport au président de la République. Si nous voulons être entre griffes dans un pays normal où il y a une cohérence d'action entre les deux têtes de l'exécutif, c'est au Premier ministre de devoir réajuster son discours en voyant véritablement que le président, la première institution de la République, est hostile à tout dialogue avec Iyad et Koufa. C'est comme ça que je comprends la chose. Parce que à Paris, on imagine mal que le président puisse laisser entrouvrir cette porte. Même s'il pourrait cautionner la chose, ça ne pourrait pas s'annoncer publiquement, ça ne pourrait pas se dire officiellement. Donc face à la question du journaliste de notre confrère Le Monde, c'est évident, je m'attendais à cette réponse et elle est venue. Quitte à ce qu'il y ait une concertation pour qu'il puisse faire ajuster les discours entre lui et le Premier ministre pour dire le dialogue dont je parle, voici ce que ça doit être en excluant ceux qui auraient le sang sur les mains. Je crois que visiblement pour Ibeka, Iyad Agali et Koufa ont tellement tué que eux ne doivent pas, on ne doit pas leur parler. Parce qu'il a expliqué jusqu'à dire que nous avons mis fin à la mission entamée par Mamoud Diko sous l'égide de l'ancien Premier ministre Ablaye Idrissa Maïga.
Monsieur Guindo, êtes-vous d'accord avec cela?
Moi, c'est toujours ce que je dis. C'est de l'incohérence, en fait. On n'est pas logique avec nous-mêmes. Si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, on ne peut pas se vouloir État et dire quand on est sur le territoire français, on va agir comme les Français. Non, c'est le peuple malien qui l'a élu. Et nous le disons chaque fois, c'est 77% des électeurs maliens qui l'ont élu. Donc il s'agit de parler au nom de ces 77% de Maliens. Et la conférence d'entente nationale l'a suggéré. Comme il l'a dit, il y a cette constance. Mais je pense effectivement que le président agit par rapport à ce que pense la communauté internationale. Même si peut-être en sous-marin, on va discuter avec ces personnes qu'il dit être des gens ayant les mains souillées. Mais quel terroriste n'a pas les mains souillées? Quel terroriste n'a jamais tué? Même si tu as préparé pour un terroriste, tu as tué déjà pour moi. Donc on ne peut pas ne pas négocier aujourd'hui avec ces personnes qui sont indispensables pour faire la paix, qu'on le veuille ou pas. Sinon, il faut les éliminer et trouver des personnes à même de pouvoir résoudre la situation avec les terroristes.
D'accord, M. Guindo. Nous allons ouvrir un autre chapitre sur les réseaux sociaux. Des vidéos malsaines continuent d'être diffusées sur les réseaux sociaux au Mali. Une vidéo à caractère pornographique sur une autorité du gouvernement circule sur la toile depuis le week-end dernier. La pratique se répand et relance le débat sur la réglementation des réseaux sociaux. Alors, M. Sekbeji, qu'en dites-vous?
Il est nécessaire de réglementer les réseaux sociaux. Le concept de la cybercriminalité est là depuis un moment et plusieurs États africains, puisque c'est eux qui sont en retard dans ce domaine-là, plusieurs États africains font des efforts pour légiférer, pour qu'il y ait des mesures préventives, pour que Facebook, WhatsApp et autres là ne soient pas à la disposition de tout le monde, de n'importe qui, pour y publier toutes choses. Je crois que nos États ont pris encore du retard. Donc il faut réglementer, il faut prendre des mesures, des garde-fous, sanctionner, pour dissuader ces velléités-là. Parce que un jeune avec son smartphone de 15 ans aujourd'hui peut... Surtout, ils sont plus habiles que nous autres. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui sont des jeunes des NTIC, c'est comme ça que je les appelle. Ils arrivent à monter des choses, à monter des images et tout le monde est exposé à cette réalité-là. C'est déplorable ce qu'on a vu, cette vidéo. C'est choquant même. Maintenant, il faut que... Il y a un ministère chargé de ça, des nouvelles technologies. Il y a un ministère chargé de la communication. Il faut des efforts pour endiguer, pour fluidifier. Toute image obscène en elle-même ne devrait pas pouvoir être exposé au monde entier. Imaginez combien de personnes ont vu ça. Que ça soit vrai ou pas, je ne vais pas sur ce terrain, mais au moins c'est déjà choquant. Est-ce que la technologie au jour d'aujourd'hui, avec en collaboration avec les opérateurs de téléphonie et autres là, ne permettent pas de mettre en place, je crois que ça doit exister, un dispositif, un logiciel pour bloquer toutes ces velléités là, ces images choquantes là. Ce serait bien avant que l'aspect répression, la police, je crois que vous avez d'autres questions par rapport à la chose, la police n'aille vers la répression, arrêter des journalistes, etc., des éléments soupçonnés pour... Donc il vaut mieux prévenir d'abord avant ça.
D'accord. Et vous, M. Guénon?
Oui, je vais commencer par ça, la prévention. La prévention, pour moi, c'est quoi? C'est plus l'éducation. Il s'agit d'éduquer tout le monde. Donc là, on va même inclure les membres du gouvernement. La plupart, comme il l'a dit, ce sont les jeunes qui maîtrisent le mieux les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Les personnes âgées qui sont sur la toile le plus souvent sont nouvelles sur les réseaux sociaux et ne maîtrisent pas tout de ce qui s'y passe. Mais quelles que soient les personnes concernées, toutes les victimes ont quelque part, un jour, se sont permis de faire quelque chose qui, aujourd'hui, leur cause du tort. C'est clair, hein? Il ne faut pas se mentir. Je ne sais pas, est-ce que c'est du montage ou c'est pas du montage? Je dirais oui. Personnellement, je n'ai jamais regardé les images dont il est question. Je pense que à 90%, ce sont des montages. Mais le montage, il est fait sur du vrai. Ce n'est pas un diable, quoi. Ce n'est pas un monstre avec les images des monstres qu'on a monté, ça. C'est avec, à partir de l'existant. Et l'existant, c'est quoi? C'est quand vous acceptez n'importe quel ami. C'est quand vous cliquez sur n'importe quel lien, c'est quand vous pensez qu'il faut aller regarder n'importe quelle chose qui vous semble être importante. Et c'est ça le problème. Les gens disent « on a piraté mon compte ». C'est pas vrai, il n'y a pas de piratage de compte. Le plus souvent, c'est de la duplication de compte. Et quand il y a piratage, on prend entièrement le contrôle de votre compte. Vous ne pourrez pas y accéder à nouveau, à moins de changer complètement le compte.
Mais est-ce que vous pensez qu'on peut réellement réglementer ce secteur-là ici au Mali?
La réglementation, ça va être... C'est de l'utopie. On ne peut pas réglementer. Même aux États-Unis, ils n'ont pas réussi à le faire. Ça se fait un peu partout. Mais quand même, il existe des logiciels ou des applications qui bloquent des images. Qui sont érotiques. Ça, c'est possible. Mais moi, je pense que c'est d'abord nous-mêmes, notre comportement. En fait, ce sont nos comportements de tous les jours qui ont été mis, qui sont sortis du fond du puits en quelque sorte, quoi. Donc, avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas toujours accuser les réseaux sociaux. Donc, il faut que nous-mêmes, nous comprenions que quand nous sommes dans nos bureaux, c'est pour aller faire du travail, aller causer avec toutes ces jolies femmes sur Internet. Ce ne sont pas des femmes, en fait. C'est n'importe qui. Moi, j'ai par exemple une fois reçu de quelqu'un qui me dit je suis une femme, une héritière, j'ai des millions, tant, je suis en Angleterre canadienne, je voudrais qu'on se retrouve au Bénin. Je dis, bah, c'est très simple. Tu quittes l'Angleterre, avant d'arriver au Bénin, il y a le Mali en bas. Il faut atterrir au Mali, on va ensemble au Bénin. La personne ne m'a jamais répondu. C'est quoi en réalité? Leurs réponses, quand vous leur écrivez, les réponses sont automatiques, elles ne sont pas cohérentes. Comprenez déjà que vous causez avec des personnes qui ne sont pas vraies. Ce sont des gens mal intentionnés. Donc, il ne faut pas causer avec n'importe qui sur Internet. Ne pas diffuser d'images de vous sur Internet. Moi, personnellement, sur Facebook, je n'ai pas de photo de moi. Quand je publie tout de suite, je l'efface dans les 10 minutes qui suivent où je bloque pour que personne ne puisse la prendre après. Ensuite, par exemple, mon ordinateur, je masque ma caméra parce que je n'ai confiance en personne en cette matière. Je suis paranoïaque. Et il faut être paranoïaque aujourd'hui pour se sortir d'affaires, carrément.
D'accord. Alors, M. Segbeji, selon vous, quelle peut être la solution à cette situation?
La solution, je l'ai dit et répété, c'est l'État qui est... Parce que c'est une donne de la sécurité. Le droit à l'image, c'est assez sensible. Il y a des services de renseignement, donc c'est l'État. M. Guindo, je ne crois pas qu'on puisse accuser l'éducation. L'éducation nous a échappé pendant déjà des années. Il y a n'importe qui vient sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes... Donc, dire que c'est parce que vous avez cliqué sur cette image et que vous vous êtes fait dupliquer vos comptes qui vous font subir un tel désagrément. C'est trop facile, cet argumentaire-là. Je ne crois pas. C'est pas bien de raisonner comme ça. Il faudrait que... je ne m'y connais pas, mais la dernière fois, j'ai cru entendre une application particulière que l'État sert, je ne sais pas si c'est le système de serveur, qui freine toute image de cette nature, pornographique, quel qu'il soit. On a beau pirater votre compte, on a beau prendre votre photo, on peut l'avoir n'importe où là. Votre photo, on peut l'avoir n'importe où, étant un homme de médias. Vous avez fait une publication, vous avez fait un éditorial, on peut avoir votre photo. Et si, simplement parce que vous avez fait publier votre photo avec votre chronique, on peut en faire un montage pour le travestir au point de vous dire que vous avez eu telle relation, c'est assez condamnable. On ne va pas dire que l'éducation. Donc il faut ces applications, ces serveurs, ces logiciels qui bloquent la possibilité de faire de tels montages.
Merci M. Segbedji, et cela me fait à ce forum de la presse. Un grand merci aux journalistes présents sur ce plateau, à Madou Salif Guindo du journal Enquêteur, Bruno Segbedji de Mali Horizon. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keïta. La régie vidéo est assurée par Noundjiré, et c'est une réalisation de Moumine Sendebou et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mambi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.